Georges Bernanos, Sous le soleil de Satan, septième partie. Était-ce devant lui son compagnon? Il ne le crut pas d'abord. Ce qu'il avait sous les yeux, ce qu'il saisissait du regard avec une certitude fulgurante, était-ce un homme de chair? À peine si la nuit eût permis de découvrir dans l'ombre la silhouette immobile, et pourtant, il avait toujours l'impression de cette lumière douce, égale, vivante, réfléchie dans sa pensée, véritablement souveraine. C'était la première fois que le futur saint de l'Imbre assistait au silencieux prodige qui devait lui devenir plus tard si familier. Et il semblait que ses sens ne l'acceptaient pas sans lutte. Ainsi l'aveugle-né, à qui la lumière se découvre, tend vers la chose inconnue ses doigts tremblants et s'étonne de n'en saisir la forme ni l'épaisseur. Comment le jeune prêtre eût-il été introduit sans lutte à ce nouveau mode de connaissance inaccessible aux autres hommes? Il voyait devant lui son compagnon. Il le voyait, à n'en douter pas, bien qu'il ne distinguât point ses traits, qu'il cherchât vainement son visage ou ses mains. Et néanmoins, sans rien craindre, il regardait l'extraordinaire clarté avec une confiance sereine, une fixité calme, non point pour la pénétrer, mais sûr d'être pénétré par elle. Un long temps s'écoula à ce qu'il lui parut. Réellement, ce ne fut qu'un éclair, et tout à coup, il comprit. « Ainsi que tu t'es vu toi-même tout à l'heure, » avait dit l'affreux témoin. C'était ainsi, il voyait. Il voyait de ses yeux de chair ce qui reste caché au plus pénétrant, à l'intuition la plus subtile, à la plus ferme éducation, une conscience humaine. Certes, notre propre nature nous est partiellement donnée. Nous nous connaissons sans doute un peu plus clairement qu'autrui, mais chacun doit descendre en soi-même, et à mesure qu'il descend, les ténèbres s'épaississent jusqu'aux tufs obscurs, aux mois profonds, où s'agitent les ombres des ancêtres, où mugit l'instinct ainsi qu'une eau sous la terre. Et voilà que ce misérable prêtre se trouvait soudain transporté au plus intime d'un autre être, sans doute à ce point même où porte le regard du juge. Il avait conscience du prodige, et il était dans le ravissement que ce prodige fût si simple et sa révélation si douce. Cette effraction de l'âme, qu'un autre que lui n'eût point imaginée sans éclair et sans tonnerre, à présent qu'elle était accomplie, ne l'effrayait plus. Peut-être s'étonnait-il que la révélation en fût venue si tard, sans pouvoir l'exprimer, car il ne sut l'exprimer jamais. Il sentait que cette connaissance était selon sa nature, que l'intelligence et les facultés dont s'enorgueillissent les hommes y avaient peu de part, qu'elles étaient seulement et simplement l'effervescence, l'expansion, la dilatation de la charité. Déjà incapable de se juger digne d'une grâce singulière, exceptionnelle, dans la sincérité de son humble pensée, il était prêt de s'accuser d'avoir retardé par sa faute cette initiation, de n'avoir pas encore assez aimé les âmes, puisqu'il les avait méconnues. Car l'entreprise était si simple au fond, et le but si proche, dès que la route était choisie. L'aveugle, quand il a pris possession du nouveau sens qui lui est rendu, ne s'étonne pas plus de toucher du regard le lointain horizon qu'il n'atteignait jadis qu'avec tant de labeur à travers les fondrières et les ronces. Toujours le carrier le précédait de son pas tranquille. Un instant, par surprise, l'abbé Donissant fut tenté de le joindre, de l'appeler. Mais ce ne fut qu'un instant. Cette âme tout à coup découverte l'emplissait de respect et d'amour. C'était une âme simple et sans histoire, attentive, quotidienne, occupée de pauvres soucis. Mais une humilité souveraine ainsi qu'une lumière céleste le baignait de son reflet. Quelle leçon pour ce pauvre prêtre tourmenté, obsédé par la crainte, que la découverte de ce juste, ignoré de tous et de lui-même, soumis à sa destinée, à ses devoirs, aux humbles amours de sa vie, sous le regard de Dieu. Et une pensée lui vint spontanément, ajoutant au respect et à l'amour une sorte de crainte. N'était-ce pas devant celui-là, et celui-là seul, que l'autre avait fui? Il eût voulu s'arrêter, sans risquer de rompre la délicate et magnifique vision. Il cherchait vainement la parole qui devait être dite, mais il lui semblait que toute parole était indigne. Cette majesté du cœur pur arrêtait les mots sur ses lèvres. Était-ce possible? Était-ce possible qu'à travers la foule humaine, mêlée au plus grossier, témoin de tant de vices que sa simplicité ne jugeait point, était-ce possible que cet ami de Dieu, ce pauvre entre les pauvres, se fût gardé dans la droiture et dans l'enfance? Qu'il suscita l'image d'un autre artisan, non moins obscur, non moins méconnu, le charpentier villageois, gardien de la reine des anges, le juste qui vit le Rédempteur face à face et dont la main ne trembla point sur la varlope et le rabot, soucieux de contenter la clientèle et de gagner honnêtement son salaire. Hélas, pour une part, cette leçon serait vaine. La paix qu'il ne connaîtra jamais, ce prêtre est nommé pour la dispenser aux autres. Il est missionné pour les seuls pécheurs. Le saint de l'humbre poursuit sa voie dans les inquiétudes et dans les larmes. Ils étaient arrivés au croisement des chemins avant que l'abbé de Nissan trouvât une parole. Il savourait cette douceur. Il l'épuisait dans le pressentiment qu'elle serait une des rares étapes de sa misérable vie. Et néanmoins, il était déjà prêt à la laisser comme il l'avait reçue, à la quitter en silence. Le carrier fit halte et, lissant sa casquette, « Nous sommes rendus, monsieur l'abbé, » dit-il. « Votre route est toute droite, une lieue et demie. Êtes-vous d'attaque à présent? Sinon, j'irai avec vous chez Sansonnet. » « C'est inutile, mon ami, » répondit le vicaire de campagne. « La marche, au contraire, m'a fait du bien. Je m'en vais donc vous dire adieu. » Un instant, il médita de le revoir, mais il lui parut aussitôt préférable de s'en rapporter pour une nouvelle rencontre à la volonté qui avait préparé la première. Il eût aussi voulu le bénir, puis il n'osa. Il le considérait une dernière fois. Il mit dans ce regard tout l'amour qu'il allait dispenser à tant d'autres. Et ce regard, l'humble compagnon, ne le vit point. Ils se serrèrent la main à tâtons. La route s'ouvrait de nouveau devant lui. Il la reconnut. Il allait vite, très vite. D'abord, il remerciait Dieu, sans une parole, de ce qui lui avait été permis de voir. Il marchait comme environné encore de cette lumière qu'il avait connue. Ce n'était pas la présence, et c'était quelque chose de plus que le souvenir. Ainsi l'on s'écarte d'un chant qui longtemps vous suit. Hélas, c'était bien l'écho allant s'affaiblissant d'une mystérieuse harmonie qu'il n'ouïrait plus jamais, jamais. Le prolongement de sa joie dura peu. Chaque pas semblait d'ailleurs l'en éloigner, mais quand par un geste naïf il s'arrêta, la fuite parut s'en accélérer encore. Il courba le dos et s'en fut. Peu à peu, le paysage encore indécis à la toute première heure de l'aube lui devenait plus familier. Il le retrouvait avec tristesse. Chaque objet reconnu, des habitudes reprises une à une, rendait plus incertaine et plus vague la grande aventure de la nuit. Bien plus vite encore qu'il n'eût pensé, elle perdait ses détails et ses contours, reculait dans le rêve. Il traversa ainsi le visage de Pomponne, dépassa le hameau de Brême, gravit la dernière côte. Enfin, il aperçut au-dessous de lui, dans le creux de la colline, le signal tout à coup si proche, la lumière de la petite gare de campagne. Il s'arrêta, debout, haletant, tête nue, grelottant dans sa soutane raide de boue, ne sachant tout à coup si c'était de froid ou de honte et les oreilles pleines de rumeurs. À ce moment, la vie quotidienne le reprit avec tant de force et si brusquement qu'une minute, il ne resta rien, absolument rien dans son esprit d'un passé pourtant si proche. Ce brutal effacement fut surtout ressenti comme une douloureuse diminution de son être. « Ai-je donc rêvé ?» se dit-il. Ou plutôt, il s'efforça de prononcer les syllabes, de les articuler dans le silence. C'était pour faire taire une autre voix qui, beaucoup plus nettement, avec une terrible lenteur, au-dedans de lui, demandait « Suis-je fou ?» Ah, l'homme qui s'enfuir comme à travers un crible, sa volonté, son attention, puis sa conscience, tandis que son dedans ténébreux, comme la peau retournée d'un gant, paraît tout à coup au dehors, souffre une agonie très amère en un instant que nul balancier ne mesure. Mais celui-ci, pauvre prêtre, s'il doute, ne doute pas seulement de lui, mais de son unique espérance. Et, se perdant, il perd un bien plus précieux, divin, Dieu même. Au dernier éclair de sa raison, il mesure la nuit où s'en va se perdre son grand amour. Il n'oubliera pas le lieu du nouveau combat. Parvenu à la dernière crête, la route tourne brusquement, découvre une étroite bande de terrain où se dresse un orme centenaire. Le village est à droite, au dernier pli de la colline en contrebas. Aux lumières de la gare, rouge et verte, répond la vague lueur dans le ciel du four de Josué Thirion, le boulanger. La pâle lumière du jour traîne encore dans les fonds insaisissables. À gauche de la baie d'Onissan, s'amorce aussi un chemin de terre à la pente rapide qui mène au commun du château de Cadignan. Il s'enfonce tout de suite à travers de maigres broussailles et ressemble aussi plutôt à un ravin ou à un trou d'eau. C'est une tache d'ombre dans l'ombre. Le vicaire de campagne y plonge involontairement son regard. Le vent fait entre les ronces un bruit de soie fripée avec des silences soudains. De la terre détrempée, parfois une pierre s'échappe et roule. Et subitement, dans ce murmure, un bruit, reconnaissable entre tous les autres dans ce solitaire matin. Le frémissement d'un corps vivant qui se met debout s'approche. « Et là ?» dit une voix de femme, très jeune, mais assourdie, un peu tremblante. « Allez, je vous entends déjà depuis un moment. Êtes-vous donc revenu, enfin ?»« Qui êtes-vous donc, vous-même ?» demanda doucement l'abbé Donissant. Debout, au bord du talus, sa haute silhouette à peine visible sur le fond plus pâle et mouvant du ciel, il suivait d'un regard triste et comme intérieur la petite ombre au-dessous de lui, entre les murailles d'argile. De cette ombre mystérieuse à quelques pas et se rapprochant sans cesse, il ne connaissait rien. Bien qu'il sût déjà d'une certitude calme, absolue, pleine de silence, que cela qui montait et clapotait doucement dans la boue, était le dernier et suprême acteur de cette inoubliable nuit. « Ah, ce n'est donc que vous ?» dit Mademoiselle Malorty, avec une espèce de grimace douloureuse. Pour le voir, elle s'était dressée sur la pointe des pieds, à la hauteur de son épaule. Le petit visage crispé ne reflétait qu'une affreuse déception. En un éclair, la colère, le défi, un désespoir cynique s'y tracèrent tour à tour, et avec une telle netteté, un tel approfondissement des traits, que cette figure d'enfant n'avait plus d'âge. C'est alors que ses yeux rencontrèrent le regard étrange fixé sur elle. Ils le soutinrent à peine, et ils gardaient encore leur flamme, que l'arc détendu de la bouche n'exprimait plus qu'une anxiété pleine de rage. Car ce regard ne s'était pas détourné un instant. Toujours prudente, même dans l'égarement de la folie, Elle en épiait l'expression avec sa méfiance ordinaire. Jusqu'alors, le jeune prêtre, qui, selon l'expression du docteur Gallet, tournait les têtes faibles de campagne, avait été son moindre souci. À le rencontrer en tel lieu, à telle heure, sa surprise était grande. Pour d'autres raisons, sa déception n'était pas moindre, mais un moment plus tôt, elle n'eût pas douté de l'effrayer, au moins de provoquer sa colère. Et maintenant, elle lisait dans son regard une immense pitié. Non pas cette pitié qui n'est que le déguisement du mépris, mais une pitié douloureuse, ardente, bien que calme et attentive. Rien ne trahissait l'effroi, ni même la surprise ou le moindre étonnement dans le visage incliné vers elle, un peu penché sur l'épaule, car elle ne pouvait épier que le visage. Le regard se dérobait à demi sous les paupières, et lorsqu'elle voulut le rencontrer, elle s'aperçut qu'elle s'était abaissée peu à peu sur sa poitrine, comme si l'homme de Dieu, dédaignant les vaines lueurs de la prunelle humaine, eût regardé battre les cœurs. Elle ne se trompait qu'à demi. De nouveau, il avait entendu l'appel doux et fort. Puis, comme le rayonnement d'une lueur secrète, comme l'écoulement à travers lui d'une source inépuisable de clarté, une sensation inconnue, infiniment subtile et pure, sans aucun mélange, atteignait peu à peu jusqu'au principe de la vie, le transformait dans sa chair même. Ainsi qu'un homme mourant de soif s'ouvre tout entier à la fraîcheur aiguë de l'eau, il ne savait si ce qu'il avait comme transpercé de part en part était plaisir ou douleur. Connaissait-il en cet instant le prix du don qui lui était fait, ou ce don même? Celui qui, toute sa vie, à travers tant de débats tragiques, où sa volonté parfois parut fléchir, garda ce pouvoir d'une lucidité souveraine, n'en eut sans doute jamais la claire conscience. C'est que rien ne ressemblait moins à la lente investigation de l'expérience humaine quand elle va du fait observé au fait observé, hésitant sans cesse et presque toujours arrêtée en chemin, lorsqu'elle n'est pas dupe de sa propre sagacité. La vision intérieure de l'abbé Donissant, précédant toute hypothèse, s'imposait par elle-même. Mais, si cette soudaine évidence eût accablé l'esprit, l'intelligence, déjà conquise, ne retrouvait que lentement et par un détour la raison de sa certitude. Ainsi, l'homme qui s'éveille devant un paysage inconnu, tout à coup découvert à la lumière de midi, alors que son regard s'est déjà emparé de tout l'horizon, ne remonte que par degrés de la profondeur de son rêve. « Que me voulez-vous ? » dit brutalement Mademoiselle Malorty. « Est-ce l'heure d'arrêter les gens ?» Elle riait d'un rire méchant, mais ce rire était menteur, et il le savait bien. Ou plutôt, peut-être, ne l'entendait-il même pas, car plus haut qu'aucune voix humaine criait vers lui la douleur sans espérance dont elle était consumée. « Je venais par la route de Senecourt, » poursuivit-elle avec volubilité, « mais j'ai fait un détour vers Corsargues. Cela vous étonne ? C'est très naturel. Je ne puis dormir la nuit. Je n'ai pas d'autre raison. » « Mais vous, » reprit-elle avec une soudaine colère, « un saint homme du bon Dieu, ça ne va pas s'embusquer au coin des haies pour surprendre les filles, à moins que... » Elle cherchait sur le visage paisible la moindre trace d'irritation ou d'embarras qui pût déchaîner de nouveau son rire. Mais ce rire s'éteignit dans sa gorge, car elle n'y vit rien, absolument rien qui lui permît de croire d'avoir été seulement entendue. En sorte que, reprenant la parole, son regard démentait déjà sa voix qui, elle encore, raillait. « Je vois que la plaisanterie ne vous va pas, » dit-elle. « Que voulez-vous ? J'aime rire. Est-ce défendu ? J'ai déjà tant ri. » Elle soupira, puis reprit d'un autre accent. « C'est bon. Nous n'avons plus grand-chose à nous dire, j'espère. » Pour descendre un creux du chemin, elle passa devant lui et, glissant sur la pente, rattrapa son équilibre en posant ses cinq petites griffes sur la manche noire. Pourquoi s'arrêta-t-elle de nouveau? Quel doute la retint un moment encore immobile? Et surtout, pourquoi prononça-t-elle d'autres paroles qu'en elle-même, au même instant, elle désavouait? Hein? Vous pensez, elle vient de quitter son amant? Elle rentre avant l'aube? Vous ne vous trompez pas tout à fait. Ses yeux, à la dérobée, firent le tour de l'horizon. À leur droite, les grands pins de Norvège au feuillage noir faisaient une masse sombre et grondante sur le ciel oriental déjà pâli. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait leur âpre voix. L'abbé Donisson posa doucement la main sur son épaule et dit simplement « Voulez-vous que nous fassions ensemble un peu de chemin ?» Il descendit le talus et prit sans hésiter la direction du hameau de Thiers, tournant le dos au château de Cadignan et au village même. Le chemin se rétrécissant peu à peu, il leur était impossible de marcher de front. Jamais le petit cœur de Mouchette ne sauta plus fort dans sa poitrine qu'à l'instant où, sans force encore pour résister ou même ruser, elle entendit derrière elle piétiner les gros souliers ferrés. Ils firent ainsi quelques pas en silence. À chacune de ses larges enjambées, le vicaire de campagne, marchant littéralement sur ses talons, la forçait à se hâter. Au bout d'un instant, cette contrainte parut si insupportable à Mouchette que l'espèce de crainte qui la paralysait tomba. Sautant légèrement sur le talus, elle lui fit signe de passer. « Vous n'avez rien à craindre, » dit l'abbé Donisson, « et je ne vous contraindrai pas. Aucune curiosité ne me pousse. Je suis seulement heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui, après tant de jours perdus. Mais il n'est pas trop tard. » « Il est même un peu trop tôt, » répondit Mademoiselle Malorty, en affectant de contenir un rire aigu. « Je ne vous ai pas cherché, » reprit le vicaire de campagne, « je vous demande pardon. Pour vous rencontrer, j'ai fait un long détour, un très long détour, un détour bien singulier. Pourquoi me refuseriez-vous ce que je vous demande, un moment d'entretien qui sera sans doute plein de consolation pour moi et pour vous ?» Elle haussa les épaules et ne fit aucun geste pour le suivre. Toutefois, elle hésitait à prendre parti, retenue là par une inquiétude dont elle ne savait pas encore quelle était une espérance secrète. Elle avait quitté la veille ses cousins de Remanger. La voiture l'avait conduite jusqu'à Faux, où elle avait demandé qu'on la laissât vers 7 heures du soir. Elle devait dîner chez son amie, Suzanne Rabourdin, à l'estaminet de la Jeune France, et ferait à pied, disait-elle, après souper, les 4 ou 5 kilomètres qui la séparaient de campagne. Depuis sa dernière maladie, bien que son accouchement eût été tenu secret, quelques-uns de ses parents n'ignoraient pas qu'elle avait gravement souffert d'une maladie noire. La maladie noire est, pour ces bonnes gens, inguérissable, et ceux qui en sont atteints se trouve décidément classé dans la catégorie des pauvres diables qui, selon la mère et touchant dicton, n'ont pas tout. Pour cette raison, il était rare depuis quelques mois qu'on s'opposât à ses fantaisies. Elle avait donc quitté l'estaminet de la Jeune France, ayant refusé la compagnie du gars Rabourdin. Si tard qu'elle se fût mise en route, elle aurait pu aisément regagner campagne avant 10 heures du soir. Mais, traversant la grande route d'Étaples, elle s'était, selon une habitude déjà ancienne, un peu détournée pour longer le parc de Cadignan. Combien de temps, sans nulle crainte, mais remâchant seulement ses souvenirs, les 2 poings sous le menton, à côté à la haie, ses pieds dans la boue, elle avait pesé le pour et le contre, comme toujours, d'une cervelle froide et d'un cœur ardent. Vaincue, jetée hors de son rêve, tenue à jamais pour une pauvre fille obsédée de 20 fantômes, condamnée à la pitié perpétuelle, dépouillée de tout, même de son crime. Et la seule consolation de sa petite âme farouche était encore de revoir, à la même heure inoubliable, cette route qu'elle avait parcourue au cours d'une nuit unique. La barrière à présent close, le détour mystérieux de l'avenue et, là-bas, tout au fond, les grands murs pleins de silence, où veillait le mort inutile, son muet témoin. Le vicaire de campagne attendit la réponse une longue minute, sans donner signe d'impatience, mais sans paraître douter non plus d'être obéi. Par contraste, sa voix se faisait de plus en plus humble et douce, presque timide, tandis que son attitude exprimait une autorité grandissante. Et tout à coup, sans changer de ton, il ajouta ces paroles inattendues que Mademoiselle Malorty sentit comme éclater dans son cœur. « Je voulais simplement vous éloigner d'abord, car vous savez bien que le mort que vous attendez ici n'y est plus. » La stupeur de Mouchette ne se marqua que par un grand frisson, qu'elle réprima d'ailleurs un instant. Et ce n'était pas la peur qui fit trembler sur ses lèvres les premiers mots qu'elle prononça, presque au hasard. « Un mort ? Quel mort ?» Il reprit avec le même calme, tout en la devançant pour poursuivre son chemin, tandis qu'elle trottait docilement derrière lui. « Nous sommes mauvais juges en notre propre cause, et nous entretenons souvent l'illusion de certaines fautes pour mieux nous dérober la vue de ce qui, en nous, est tout à fait pourri et doit être rejeté à peine de mort. « Quelle mort ? » reprit Mouchette. « De quelle mort parlez-vous ? » Et elle serrait machinalement le pan de sa soutane, tandis que chaque pas de son compagnon la repoussait, essoufflée et bégayante, sur le bord du talus. Le ridicule de cette poursuite, l'humiliation d'interroger à son tour, d'implorer presque, était amère à sa fierté. Mais elle sentait aussi quelque chose comme une joie obscure. Elle parlait encore qu'ils sortirent du chemin et débouchèrent dans la plaine. Elle reconnut la place aussitôt. C'était à 200 mètres des premières maisons de Trilly, le petit carrefour cerné de haies vives plantées de maigres tilleuls à la mode ancienne. Au premier dimanche d'août, à la Ducasse, les forains y installent leurs pauvres boutiques roulantes et des amateurs y font parfois danser les filles. Ils se trouvèrent de nouveau face à face comme au premier moment de leur rencontre. La triste aurore errait dans le ciel et la haute silhouette du vicaire parut à Mademoiselle Malorty plus haute encore lorsque, d'un geste souverain, d'une force et d'une douceur inexprimables, il s'avança vers elle et, tenant levée sur sa tête sa manche noire, « Ne vous étonnez pas de ce que je vais dire. N'y voyez surtout rien de capable d'exciter l'étonnement ou la curiosité de personne. Je ne suis moi-même qu'un pauvre homme. Mais quand l'esprit de révolte était en vous, j'ai vu le nom de Dieu écrit dans votre cœur. » Et, baissant le bras, il traça du pouce sur la poitrine de Mouchette une double croix. Elle fit un bond léger en arrière, sans trouver une parole, avec un étonnement stupide. Et quand elle n'entendit plus en elle-même l'écho de cette voix dont la douceur l'avait transpercée, le regard paternel acheva de la confondre. Si paternel. Car il avait lui-même goûté le poison et savouré sa longue amertume. La langue humaine ne peut être contrainte assez pour exprimer, en termes abstraits, la certitude d'une présence réelle, car toutes nos certitudes sont déduites, et l'expérience n'est pour la plupart des hommes au soir d'une longue vie que le terme d'un long voyage autour de leur propre néant. Nulle autre évidence que logique ne jaillit de la raison. Nul autre univers n'est donné que celui des espèces et des genres. Nul feu, sinon divin, qui force et fonde la glace des concepts. Et pourtant, ce qui se découvre à cette heure au regard de l'abbé Donissant n'est point signe ou figure, c'est une âme vivante, un cœur pour tout autre scellé. Pas plus qu'à l'instant de leur extraordinaire rencontre, ils ne seraient capables de justifier par des mots la vision extraordinaire d'un éclat toujours égal et qui se confond avec la lumière intérieure dont il est lui-même saturé. La première vision de l'enfant est mêmement si pleine et si pure que l'univers dont il vient de s'emparer ne saurait se distinguer d'abord du frémissement de sa propre joie. Toutes les couleurs et toutes les formes s'épanouissent à la fois dans son rire triomphal. Quand on l'interrogeait plus tard sur ce don de lire dans les âmes, il niait d'abord et presque toujours obstinément. Parfois aussi, craignant de mentir, il s'en expliqua plus clairement, mais avec un tel scrupule, une recherche de précision si naïve, que sa parole était souvent pour les curieux une déception nouvelle. Ainsi, quelques dévots villageois interpréteraient l'extase et l'union en Dieu de sainte Thérèse ou de saint Jean de la Croix. C'est que la vie n'est confusion et désordre que pour qui la contemple du dehors. Ainsi, l'homme surnaturel est à l'aise si haut que l'amour le porte, et sa vie spirituelle ne comporte aucun vertige sitôt qu'il reçoit les dons magnifiques sans s'arrêter à les définir et sans rechercher à les nommer. « Que voyez-vous » demandait-on au saint homme. « Quand voyez-vous ? Quel avertissement ? Quel signe ?» Et il répétait d'une voix d'enfant studieux auquel échappe le mot du rudiment « J'ai pitié, j'ai seulement pitié. » Quand il avait rencontré Mademoiselle Malorty sur le bord du chemin, ne voyant devant lui qu'une ombre presque indiscernable, une violente pitié était déjà dans son cœur. N'est-ce point ainsi qu'une mère s'éveille en sursaut, sachant de toute certitude que son enfant est en péril? La charité des grandes âmes, leur surnaturelle compassion, semble les porter d'un coup au plus intime des êtres. La charité, comme la raison, est un des éléments de notre connaissance. Mais si elle a ses lois, ses déductions sont foudroyantes et l'esprit qui les veut suivre n'en aperçoit que l'éclair. Le regard que l'homme de Dieu tenait baissé sur Mouchette à tout autre peut-être eût fait plier les genoux. Et il est vrai qu'elle se sentit, pour un moment, hésitante et comme attendrie. Mais alors un secours lui vint, jamais vainement attendu, d'un maître de jour en jour plus attentif et plus dur. Rêve jadis à peine distinct d'autres rêves, désir plus âpre à peine, voix entre mille autres voix. À cette heure réelle et vivante, compagnon et bourreau, tour à tour plaintif, languissant, source des larmes, puis pressant, brutal, avide de contraindre, puis encore à la minute décisive, cruel, féroce, tout entier présent dans un rire douloureux, amer, jadis serviteur, maintenant maître. Cela jaillit d'elle tout à coup, une colère aveugle, une rage de défier ce regard, de lui fermer son âme, d'humilier la pitié qu'elle sentait sur elle suspendue, de la flétrir, de la souiller. Son élan la jeta toute frémissante, non pas aux pieds, mais face au juge, dans son silence souverain. Elle ne trouvait d'abord aucun mot. En était-il pour exprimer ce transport sauvage? Elle repassait seulement dans son esprit, mais avec une rapidité et une netteté surhumaine, les décisions capitales de sa courte vie, comme si la pitié de ce prêtre en était le terme et le couronnement. Elle put articuler, enfin, d'une voix presque inintelligible, « Je vous hais. » « N'ayez pas honte, » dit-il. « Gardez vos conseils, » cria Mouchette. Mais il avait frappé si juste que sa colère en fut comme trompée. « Je ne sais même pas ce que vous voulez dire. »« Assurément, d'autres épreuves vous attendent, » continua-t-il, « plus rudes. » « Quel âge avez-vous ? » demanda-t-il après un silence. Depuis un moment, le regard de Mouchette trahissait une surprise, déjà déçue. À ce dernier mot, par un violent effort, elle sourit. « Vous devez le savoir, vous qui savez tant de choses. »« Jusqu'à ce jour, vous avez vécu comme une enfant. Qui n'a pas pitié d'un petit enfant ? Et ce sont les pères de ce monde. Ah, voyez-vous, Dieu nous assiste jusque dans nos folies. Et quand l'homme se lève pour le maudire, C'est lui seul qui soutient cette main débile. Un enfant, fit-elle, un enfant, des enfants de cœur comme moi, vous n'en rencontrerez pas beaucoup dans vos sacristies. Ils n'useront pas votre eau bénite. Les chemins où j'ai passé, souhaitez ne les connaître jamais. Elle prononça ces derniers mots avec une emphase un peu comique. Il répondit tranquillement, « Qu'avez-vous donc trouvé dans le péché qui valut tant de peine et de tracas ? Si la recherche et la possession du mal comportent quelque horrible joie, soyez bien sûr qu'un autre l'exprima pour lui seul et la but jusqu'à la lie. » L'abbé Donnisson fit encore un pas vers elle. Rien dans son attitude n'exprimait une émotion excessive ni le désir d'étonner. Et pourtant les paroles qu'il prononça clouèrent Mouchette sur place et retentirent dans son cœur. « Laissez cette pensée, dit-il. Vous n'êtes point, devant Dieu, coupable de ce meurtre. Pas plus qu'en ce moment-ci, votre volonté n'était libre. Vous êtes comme un jouet. Vous êtes comme la petite balle d'un enfant entre les mains de Satan. » Il ne lui laissa pas le temps de répondre, et d'ailleurs elle ne trouvait pas un mot. Il l'entraînait déjà, tout en parlant, sur la route de Dèvres, à grands pas dans les champs déserts. Elle le suivait, elle devait le suivre. Il parlait comme il n'avait jamais parlé, comme il ne parlerait plus jamais, même à l'ombre et dans la plénitude de ses dons, car elle était sa première proie. Ce qu'elle entendait, ce n'était pas l'arrêt du juge, ni rien qui passât son entendement de petite bête obscure et farouche, mais avec une terrible douceur, sa propre histoire, l'histoire de Mouchette, non point dramatisée par le metteur en scène, enrichie de détails rares et singuliers, mais résumée au contraire, réduite à rien, vue du dedans. Que le péché qui nous dévore laisse à la vie peu de substance. Ce qu'elle voyait se consumer au feu de la parole, c'était elle-même, ne dérobant rien à la flamme droite et aiguë, suivie jusqu'au dernier détour à la dernière fibre de chair. À mesure que s'élevait ou s'abaissait la voix formidable reçue dans les entrailles, elle sentait croître ou décroître la chaleur de sa vie. Cette voix, d'abord distincte avec les mots de tous les jours, que sa terreur accueillait comme un visage ami dans un effrayant rêve, puis, de plus en plus confondue avec le témoignage intérieur, le murmure déchirant de la conscience troublée dans sa source profonde, tellement que les deux voix ne faisaient plus qu'une plainte unique comme un seul jet de sang vermeil. Mais, quand il fit silence, elle se sentit vivre encore. Ce silence se prolongea longtemps, ou du moins un temps impossible à mesurer, indiscernable. Puis la voix, mais venue de si loin, parvint de nouveau à ses oreilles. « Remettez-vous, disait-elle, n'abusez pas de vos forces, vous en avez assez dit. »« Assez dit? Qu'ai-je dit? Je n'ai rien dit. » »« Nous avons parlé, reprit la voix, et même nous avons parlé longtemps. » Voyez comme le ciel s'éclaircit, la nuit s'achève. Et je parlais, répéta-t-elle d'un ton suppliant. Et tout à coup, ainsi qu'au réveil surgit de la mémoire avec une brutale évidence l'acte accompli, j'ai parlé, s'écria-t-elle, j'ai parlé. Dans le gris de l'aube, elle reconnut le visage du vicaire de campagne. Il exprimait une lassitude infinie, et ses yeux, où la flamme s'était à présent effacée, semblaient comme rassasiés de la vision mystérieuse. Elle se sentait si faible, si désarmée, qu'elle n'aurait pu faire alors un pas, semblait-il, ni pour le joindre, ni pour l'éviter. Elle hésita. « Cela est-il possible ? » dit-elle encore. « De quel droit ?»« Je n'ai aucun droit sur vous, » répondit-il avec douceur. « Si Dieu, Dieu » commença-t-elle, mais il lui fut impossible d'achever. L'esprit de révolte était en elle comme engourdi. Comme vous vous débattez dans sa main, fit-il tristement. Lui échapperez-vous de nouveau? Je ne sais. D'une voix très humble, après un nouveau silence, il ajouta « Épargnez-moi, ma fille. » Sa pâleur était effrayante. La main qu'il levait vers elle retomba gauchement et son regard se détourna. Et déjà, elle serrait avec impatience ses petits poings. Il la vit telle qu'il l'avait entrevue dans l'ombre une heure plus tôt, avec ce visage d'enfant vieilli, contracté, méconnaissable. L'inutilité de son grand effort, la vaine dispersion des grâces sublimes qui venaient d'être prodiguées là, à cette place, l'inexorable prévision lui serra le cœur. « Dieu !» s'écria-t-elle avec un rire dur. L'aube livide s'élevait à mesure autour d'eux et ils n'en voyaient que le reflet pathétique sur leur visage. À leur droite, le hameau, à peine émergé de la brume, au creux des collines, faisait un paysage de désolation. Dans l'immense plaine, à l'infini, seul vivait un mince filet de fumée au-dessus d'un toit invisible. Alors le rire de Mouchette se tut. La flamme instable de son regard s'éteignit. Et soudain, lamentable, exténuée, obstinée, elle implora de nouveau. Je ne voulais pas vous offenser. N'est-ce pas que vous m'avez menti tout à l'heure? Je n'ai rien dit. Que vous aurais-je dit? Il me semble que je dormais. Et je dormis? Il semblait ne pas l'entendre. Elle redoubla. Ne me refusez pas. Vous ne pouvez refuser de répondre. Pour l'apprendre, je me soumettrai à ce que vous jugerez bon de m'ordonner. Jamais la voix de l'étrange fille ne s'était faite si humble, si suppliante. Il ne répondit pas encore. Elle recula de quelques pas, le dévisagea longuement, ardemment, les sourcils froncés, le front bas, et soudain. « J'ai tout avoué, dit-elle, vous savez tout. » Mais se reprenant aussitôt, « Et quand cela serait, je ne crains rien, que m'importe ? Mais dites-moi, hein, dites-moi, qu'avez-vous fait ? Ai-je vraiment parlé en songe ?» Dans son extrême épuisement, sa curiosité indomptable la jetait déjà vers une nouvelle aventure. Le sang montait à ses joues, ses yeux retrouvaient leur flamme sombre, et lui, il la contemplait avec pitié, ou peut-être avec mépris, car à sa grande surprise, la vision s'était effacée, anéantie. Le souvenir en était trop vif, trop précis, pour qu'il doutât. Les paroles échangées sonnaient encore à ses oreilles, mais les ténèbres étaient retombées. Pourquoi n'obéit-il pas alors au mouvement intérieur qui lui commandait de se dérober sans retard? Devant lui, ce n'était qu'une pauvre créature reformant en hâte la trame un instant déchirée de ses mensonges. Mais n'avait-il pas été une minute, une éternité, par un effort presque divin, affranchi de sa propre nature? Fût-ce le désespoir de cette puissance perdue, ou la rage de la reconquérir, ou la colère de retrouver rebelle la misérable enfant tout à l'heure à sa merci? Il eut un geste des épaules, d'une énorme brutalité. « Je t'ai vu !» À ce « tu », elle frémit de rage. « Je t'ai vu comme peut-être aucune créature telle que toi ne fut vue ici-bas. Je t'ai vu de telle manière que tu ne peux m'échapper avec toute ta ruse. Penses-tu que ton péché me fasse horreur? À peine as-tu plus offensé Dieu que les bêtes. Tu n'as porté que de faux crimes, comme tu n'as porté qu'un fœtus. Cherche, remue ton limon. Le vice dont tu te fais honneur y a pourri depuis longtemps. À chaque heure du jour, ton cœur se crevait de dégoût. De toi, tu n'as tiré que de vains rêves, toujours déçus. Tu crois avoir tué un homme, pauvre fille. Tu l'as délivré de toi. Tu as détruit de tes mains l'unique instrument possible de ton abominable libération. Et quelques semaines après, tu rampais au pied d'un autre qui ne le valait pas. Celui-là t'a mis la face contre terre. Tu le méprises et il te craint. Mais tu ne peux lui échapper.
Je ne puis lui échapper, bégaya Mouchette.
Sa terreur et sa rage étaient telles que sur son visage d'une excessive mobilité, à présent durci, se peignit comme une sérénité sinistre.
« Je sais que je le puis, » dit-elle enfin.
« Quand je le voudrai, on m'a cru folle. Qu'ai-je fait pour les détromper tous? J'attendais d'être prête, voilà tout. » Il appuya si violemment la main sur son épaule qu'elle chancela. « Tu ne seras jamais prête. Tu ne dérobes à Dieu que le pire. » La boue dont tu es faite, Satan. Te crois-tu libre? Tu ne l'aurais été qu'en Dieu. Ta vie, il respira profondément, pareil à un lutteur qui va donner son effort, et déjà montait dans ses yeux la même lueur de lucidité surhumaine, cette fois dépouillée de toute pitié. Le don périlleux, il l'avait donc conquis de nouveau. Par force, dans un élan désespéré, capable de faire violence même au ciel. La grâce de Dieu s'était faite visible à ses yeux mortels. Il ne découvrait plus maintenant que l'ennemi vautré dans sa proie. Et déjà aussi la pâle figure de Mouchette, comme rétrécie par l'angoisse, chavirait dans le même rêve dont leur double regard échangeait le reflet hideux. Ta vie répète d'autres vies, toutes pareilles, vécues à plat, juste au niveau des mangeoires où votre bétail mange son grain. Oui, chacun de tes actes est le signe d'un de ceux-là dont tu sors. Lâche, avare, luxurieux et menteur. Je les vois. Dieu m'accorde de les voir. C'est vrai que je t'ai vu en eux, et eux en toi. Oh, que notre place est ici-bas dangereuse et petite. Que notre chemin est étroit. » Et il commença de tenir des propos plus singuliers encore, mais en baissant la voix avec une grande simplicité. Comment les rapporterait-on ici? C'était encore l'histoire de Mouchette, merveilleusement confondue avec d'autres vieilles histoires, oubliées depuis longtemps, à moins qu'elles n'eussent été jamais connues. Avant qu'elle en comprît le sens, Mouchette sentit son cœur se serrer, comme à une brusque descente, et cette surprise qui fait hésiter le plus étourdi au seuil d'une demeure profonde et secrète. Puis ce fut des noms entendus, familiers, ou seulement pleins d'un souvenir vague, de plus en plus nombreux, s'éclairant l'un par l'autre, jusqu'à ce que la trame même du récit apparût en dessous. Humble fait de la vie quotidienne, sans aucun éclat, pris dans la malice la plus commune. Comme des cailloux dans leur gaine de boue, morne secret, morne mensonge, morne radotage du vice, mornes aventures qu'un nom soudain prononcé illuminait comme un phare, puis retombant dans des ténèbres où l'esprit n'eut rien distingué encore, mais qu'une espèce d'horreur sacrée dénonçait comme un grouillement de vies obscures. Tandis que Mouchette, une fois de plus, se sentait entraînée malgré sa volonté et sa raison, c'était cette horreur même qui vivait et pensait pour elle. Car, à la frontière du monde invisible, l'angoisse est un sixième sens, et douleur et perception ne font qu'un. Ces noms, que prononçait l'un après l'autre la voix redevenue souveraine, elle les reconnaissait au passage, mais pas tous. C'étaient ceux des Malortis, des Brissots, des Polis, des Pichons, aïeux et aïeules, négociant sans reproche, bonne ménagère, aimant leurs biens, jamais décédé intestat, honneur des chambres de commerce et des études de notaire. Ta tante Suzanne, ton oncle Henri, tes grands-mères Adèle et Malvina ou Cécile. Mais ce que la voix racontait, d'un accent tout uni, peu d'oreilles l'entendirent jamais. L'histoire saisit du dedans, la plus cachée, la mieux défendue, et non point tel quel dans l'enchevêtrement des effets et des causes, des actes et des intentions, mais rapporté à quelques faits principaux, aux fautes mères. Et certes, l'intelligence de Mouchette à elle seule n'eût saisi que peu de choses d'un tel récit, dont l'effrayante ellipse eût déçu de plus lucide. Où la voix trouvait son écho, n'était-ce pas dans sa chair même que chacune de ses fautes avait marqué, affaiblie à l'instant même qu'elle fut conçue? À voir peu à peu ses morts et ses mortes sortir tout nus de leur linceul, elle ne sentait même rien qu'on pût appeler surprise. Elle écoutait cette révélation surhumaine d'un cœur abîmé d'angoisse, toutefois sans véritable curiosité ni stupeur. Il semblait qu'elle l'eût déjà entendue, ou mieux encore, mensonge calomnieux, haine longuement nourrie, amour honteuse, crime calculé de l'avarice et de la haine. Tout se reformait en elle à mesure comme se reforme à l'état de veille une cruelle image du rêve. Jamais, non, jamais, morts ne furent si brutalement tirés de leur poussière, jetés dehors, ouverts. À un mot, à un nom soudain prononcé, ainsi qu'à la surface d'une bulle de boue, quelque chose remontait du passé au présent. Acte, désir, ou parfois plus profonde et plus intime, une seule pensée, car elle n'était pas morte avec le mort, mais si intime, si profonde, si sauvagement arrachée, que Mouchette la recevait avec un gémissement de honte. Elle ne distinguait plus la voix impitoyable de sa propre révélation intérieure, mille fois plus riche et plus ample. D'ailleurs, plus rapide qu'aucune parole humaine, ces fantômes innombrables qui se levaient de toutes parts n'eussent pu seulement être nommés. Pourtant, comme à travers un orage de sons monte la dominante irrésistible, une volonté active et claire achevait d'organiser ce chaos. En vain, Mouchette, dans un geste de défense naïve, levait vers l'ennemi ses petites mains, tandis qu'un autre songe, sitôt fixé de sang-froid, se dérobe et se disperse. Celui-ci se rapprochait d'elle, ainsi qu'une troupe qui se rassemble pour charger. La foule, un instant plus tôt si grouillante, où elle avait reconnu tous les siens, se rétrécissait à mesure. Des visages se superposaient entre eux, ne faisaient plus qu'un visage, qui était celui-même d'un vice. Des gestes confus se fixaient dans une attitude unique qui était le geste du crime. Plus encore, parfois, le mal ne laissait de sa proie qu'un amas informe en pleine dissolution, gonflé de venin, digéré. Les avares faisaient une masse d'or vivant, les luxurieux un tas d'entrailles. Partout, le péché crevait son enveloppe, laissait voir le mystère de sa génération. Des dizaines d'hommes et de femmes liés dans les fibres du même cancer, et les affreux liens se rétractant, pareils aux bras coupés d'un poulpe, jusqu'au noyau du monstre même, la faute initiale ignorée de tous, dans un cœur d'enfant. Et soudain, Mouchette se vit comme elle ne s'était jamais vue, pas même à ce moment où elle avait senti se briser son orgueil. Quelque chose fléchit en elle, d'un plus irréparable fléchissement, puis s'enfonça d'une fuite obscure. La voix, toujours basse, mais d'un trait vif et brûlant, l'avait comme dépouillée fibre à fibre. Elle doutait d'être, d'avoir été. Toute abstraction dans son esprit prend une forme et peut être serrée sur la poitrine ou repoussée. Que dire de ce fléchissement de la conscience même? Elle s'était reconnue dans les siens et, au paroxysme du délire, ne se distinguait plus du troupeau. Quoi? Pas un acte de sa vie qui n'eût ailleurs son double? Pas une pensée qui lui appartint en propre? Pas un geste qui ne fût dès longtemps tracé? Non point semblables, mais les mêmes. Non point répétés, mais uniques. Sans qu'elle pût retracer en paroles intelligibles aucune des évidences qui achevaient de la détruire, elle sentait dans sa misérable petite vie l'immense duperie, le rire immense du dupeur. chacun de ses ancêtres dérisoires, d'une monotone ignominie, ayant reconnu et flairé en elle son bien, venait le prendre. Elle abandonnait tout. Elle livrait tout, et c'était comme si ce troupeau était venu manger dans sa main sa propre vie. Que leur disputer, que reprendre, ils avaient jusqu'à sa révolte même. Alors elle se dressa, battant l'air de ses mains, la tête jetée en arrière, puis d'une épaule à l'autre, absolument comme un noyé qui s'enfonce. La sueur ruisselait sur son visage, ainsi qu'un torrent de larmes, tandis que ses yeux, que dévorait la vision intérieure, n'offraient au vicaire de campagne qu'un métal refroidi. Aucun cri ne sortait de ses lèvres, bien qu'il parût vibrer dans sa gorge muette. Ce cri qu'on n'entendait pas imposait pourtant sa forme à la bouche contractée, au col ployé, aux maigres épaules, aux reins creusés, au corps tout entier comme tiré en haut pour un appel désespéré. Enfin, elle s'enfuit.